RTL Info.
Le journal Adrien Juvet.
Bonjour. Tentative de meurtre à la cour pénale. Un homme a été condamné à 4 ans de prison pour avoir tenté de mettre fin au jour de sa mère une nuit de juillet de l'année passée à Colombier. Les juges du tribunal cantonal ont confirmé la peine de première instance. Les exportations horlogères sont restées stables durant les 6 premiers mois de 2017 par rapport à la même période l'année dernière. La Fédération horlogère y voit le signe d'un redressement. Même si l'optimisme se veut prudent, d'autres voix se font plus alarmistes. Il ne reste que quelques cartes à jouer aux cyclistes du Tour de France pour tenter de faire évoluer les positions au classement général. Analyse de la situation dans le journal du Tour. Il faudra profiter du soleil en début d'après-midi car des orages pourraient éclater en toute région d'ici ce soir. Une explosion s'est produite ce matin à Pontarlier, en France voisine. La déflagration a eu lieu vers 7h dans l'entreprise de fromage Badeau. Selon les premiers éléments de l'enquête, un tube contenant de la concoyote, une spécialité fromagère de la région, a explosé. 4 employés de l'usine ont été blessés et ont subi des brûlures. Selon le quotidien L'Est Républicain, les causes de cette explosion restent à déterminer. 4 ans de prison pour tentative de meurtre. Le verdict de la cour pénale de Neuchâtel est à peu de choses près le même que celui rendu par les juges du tribunal criminel. Le prévenu, un accro à l'héroïne, comparaissait pour avoir enroulé un câble électrique autour du cou de sa mère et de lui avoir posé un couteau sur la carotide en lui disant que dans 3 minutes, elle allait mourir. Les faits se sont produits une nuit de juillet de l'année passée à Colombier, au domicile de la victime qui hébergeait son fils toxicomane. L'accusé, sous emprise d'héroïne au moment du drame, dit ne pas se souvenir de cette nuit. Sarah Massy a suivi l'audience.
Pour les juges, et malgré ce que dit le prévenu, il a bel et bien voulu tuer sa mère la nuit du drame. L'homme nie les faits, il remet en cause une partie des accusations de sa mère. Il était bel et bien énervé cette nuit-là et il a bel et bien mis un cordon électrique autour du cou de sa mère, mais il n'a jamais eu l'intention de la tuer. Et quand la procureure lui demande comment il peut en être certain, vu qu'il ne se souvient pas des faits, il répond « Si cela s'était passé ainsi, je m'en souviendrai. Je me souviens de tout, même quand je suis sous l'influence de stupéfiants. » La mère a d'ailleurs écrit plusieurs lettres au ministère public pour dire qu'elle avait exagéré les faits, que son fils avait besoin avant tout d'une prise en charge pour soigner sa toxicomanie. Des propos soutenus par l'avocat du prévenu, pour lui, son client a besoin avant tout de soins, raison pour laquelle il demandait une peine de prison de 24 mois, dont 2 en institution, puis un suivi ambulatoire. Pour le ministère public, les propos de la mère sont ceux d'une maman désespérée qui se sent coupable de ce qui arrive à son enfant, mais ce soir-là, la situation aurait vraiment pu avoir une issue dramatique. Le prévenu était dans un état d'extrême violence, sous l'effet de stupéfiants. La mère doit sa vie aux propos qu'elle lui a tenus pour le calmer et au fait qu'elle a réussi à se réfugier chez sa marraine, domiciliée dans le même immeuble. En arrivant sur les lieux, la police a d'ailleurs trouvé le prévenu agité, un couteau et un seau à la main, dans lequel il disait vouloir mettre le sang de sa mère. Il regardait par ailleurs des scènes de décapitation. La police, qui a dû se déplacer à plusieurs patrouilles pour le maîtriser, estime que l'homme était une véritable bombe à retardement. Le prévenu suivra par ailleurs un traitement en prison pour tenter de le guérir de sa toxicomanie.
L'horlogerie suisse retrouve le chemin de la stabilité avec à nouveau une hausse des exportations au mois de juin. La Fédération horlogère indique que les livraisons de montres ont augmenté de 5,3% au mois de juin à 1,7 milliard de francs. Reste que sur l'ensemble du premier semestre, la reprise est timide avec une hausse de 0,1% à 9,5 milliards par rapport à la même période de l'an dernier. De quoi voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Gabriel Devec.
Une chose est certaine, ces résultats n'invitent pas à l'euphorie, mais toute la question est de savoir si la page de la crise est en passe d'être tournée ou si on assiste au chant du cygne d'un secteur condamné par l'essor de la montre connectée. La Fédération horlogère, elle, se montre plutôt optimiste en évoquant un redressement intervenu 6 mois plus tôt que prévu. Et même si le volume des pièces exportées se contracte, la valeur des montres est globalement en hausse et le niveau des exportations est poussé par les marchés chinois et européens. Pas de quoi pour autant rassurer le journaliste spécialisé dans l'horlogerie, Grégory Ponce, rédacteur en chef de Business Montres et Joaillerie, qui accusait récemment sur nos ondes la FH d'embellir le tableau.
Les chiffres ne veulent plus rien dire. La FH envoie des messages rassurants. Pourquoi ? Parce que qui paye le salaire de M. Pache ? Ce sont les grands groupes, et les grands groupes sont des grands groupes cotés. s'ils disaient la vérité, leur cote à la bourse s'effondrerait.
Une attaque balayée par le principal intéressé, Jean-Daniel Pache, directeur de la Fédération horlogère suisse, que nous avons joint ce matin.
Nous utilisons le temps que nous trouvons approprié au vu de la situation. Donc, si on lit nos textes et nos communiqués de manière approfondie, on voit qu'on essaie de relater la situation telle qu'elle est. Et d'ailleurs, très souvent, on voit que les propos que nous tenons correspondent à ce que pense la majorité des entreprises. Après, nous sommes très conscients qu'il y a des grandes différences entre les entreprises. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont mal. Nous, on donne une vision globale de la branche sur la base des chiffres et des éléments qui sont en notre possession. Donc, nous ne recevons pas d'ordre ou d'instruction pour dire n'importe quoi. Au contraire, on se base sur les analyses économiques que nous pouvons faire, sur la base de modèles économiques. Je rappelle que les chiffres que nous publions ne sont pas des chiffres qui nous sont communiqués par les marques, ce sont des chiffres qui sont communiqués par les douanes, donc ils sont neutres, ils sont objectifs. Et sur cette base-là que nous faisons nos prévisions et nos commentaires.
Les paris sont donc ouverts pour l'année 2017. La FH estime que les objectifs sont déjà atteints, mais ne cache pas que la situation est fragile, notamment à cause des États-Unis qui n'ont jusqu'à présent pas pris part au redressement.
L'élection d'un nouveau conseiller fédéral en remplacement du libéral radical neuchâtelois Didier Burkhalter aura lieu dans tout juste 2 mois, le 20 septembre. Ce sera un événement. Les dernières élections remontent à 2015 avec l'UDC Guy Parmelin et 2011 avec le socialiste Alain Berset. Bien que déserté en raison des vacances, la berne politique bruisse de scénarios qui s'orientent notamment vers le Tessin et Ignacio Cassis. Mais la campagne ne sera pas une formalité. Pour lui, des candidatures romandes sont attendues. Analyse à Berne avec Serge Jubin.
À 62 jours de l'élection, un seul candidat déclaré, le médecin tessinois Ignacio Cassis, 56 ans, que la direction du PLR cantonal promeut seul sur le ticket. Or, dans une interview donnée à la Neue Zürcher Zeitung, la présidente du PLR suisse Petra Gössi exclut de ne présenter qu'un candidat à l'Assemblée fédérale, qui, comme colistier et surtout colistière aux côtés du favori Cassis, les non-tessinois auraient voulu voir l'ancienne ministre Laura Sadis, mais le PLR tessinois n'en veut pas, craignant que l'Assemblée fédérale choisisse la femme plutôt que l'actuel chef du groupe parlementaire. Le congrès du PLR tessinois le 1er août pourrait toutefois ajouter un ou deux noms sur le ticket soumis au parti suisse, mais tout indique qu'il s'alignera derrière le seul Ignacio Cassis.
Et justement, en prônant un ticket à deux, la présidente du PLR, Petra Gössi, légitime les candidatures romandes, Serge.
Absolument, mais quelle candidature? Qui osera faire campagne pour priver le Tessin du conseiller fédéral qu'il attend depuis 18 ans? Des scénarios sont échafaudés dans les couloirs presque déserts du pouvoir bernois. Il s'y dit que le genevois Pierre Maudet ne se lancerait pas, attendant une situation plus favorable dans 8-10 ans au retrait d'Ignacio Cassis, lorsque ce serait alors de nouveau l'heure de Genève. Pour cette fois, le candidat genevois pourrait être Benoît Jeunecamp. Jacques Bourgeois est en réflexion, mais il y a déjà un fribourgeois au conseil fédéral. Les regards se tournent vers les vaudoises Isabelle Moret et Jacqueline de Quattro, avec un avantage à la ministre de Quattro qui n'aurait rien à perdre dans une campagne fédérale où elle est peu connue, donc sans grand risque pour le favori Cassis. Pour Isabelle Moret, c'est plus compliqué. Elle est sur la même ligne politique qu'Ignacio Cassis, opposée à Prévoyance 2020. Son seul statut de femme peut-il suffire? Digérerait-elle un échec, notamment si les comploteurs de l'Assemblée fédérale lui préféraient un autre outsider? Tout le monde attend le 1er août et l'option finale du PLR tessinois. Les partis romands désigneront ensuite leurs prétendants les 8, 9 et 10 août.
Le ticket PLR final soumis à l'Assemblée fédérale sera validé par le groupe parlementaire libéral radical le 1er septembre. L'opposition contre Donald Trump est de plus en plus virulente. Une vingtaine d'élus démocrates de la Chambre des représentants lancent une motion de défiance contre le président américain. Cette initiative qui met en question l'aptitude de Trump à diriger la nation reste symbolique, mais elle témoigne de la virulence croissante de l'opposition. La planète Terre est submergée par des milliards de tonnes de déchets plastiques accumulés depuis les années 50. La situation empire en l'absence d'un recyclage efficace. C'est ce que montre une étude publiée dans la revue américaine Science Advances. Le rapport des universités de Géorgie et de Californie montre qu'au total, entre 1950 et 2015, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites et que les trois quarts sont devenus des détritus très peu biodégradables. L'épidémie de sida reste un fléau. 1 million de personnes sont mortes à cause du VIH l'an dernier. Il y a toutefois des signes encourageants. Ce chiffre a été réduit de moitié depuis 2005. C'est l'ONU SIDA, le programme de coordination de l'ONU contre le virus, qui annonce ces chiffres ce matin. Une inquiétude toutefois, l'explosion des nouveaux cas en Europe de l'Est et plus particulièrement en Russie.
Vous écoutez RTN, il est 12h25.
Sport. En cyclisme, Valère Thiébaut est en bronze. Le Vaudrusien a remporté sa première médaille lors des championnats d'Europe sur piste junior à Anadia au Portugal. Il a pris part à l'épreuve de poursuite par équipe sous les couleurs suisses. Les Helvètes ont défait la Pologne lors de la petite finale. La chasse au FC Bâle est ouverte. Le championnat de Super League de football reprend ses droits samedi. Le club rennais part une nouvelle fois favori à sa propre succession. Il tentera d'empocher un 9e titre consécutif derrière Young Boys et Sion veulent croire en leur chance, alors que Lausanne cherchera à assurer son maintien le plus tôt possible. La préparation estivale laisse augurer bon nombre de changements dans l'élite du football suisse. L'analyse de Mathieu Schaffner.
Le premier grand changement est intervenu fin avril déjà, avec la nomination de Raphaël Vicky à la tête du FC Bâle. L'entraîneur valaisan va vivre sa première expérience sur un banc de Super League et il semble vouloir d'emblée secouer le vestiaire bâlois. Raphaël Vicky n'a cessé de tester un nouveau dispositif tactique cet été en passant au 3-5-2. Il veut proposer un jeu attrayant au public rennais qui en a été privé sous l'ère Urs Fischer. Les mêmes changements ont été opérés au FC Sion. L'arrivée de l'entraîneur italien Paolo Tramezzani a aussi débouché sur l'instauration du 3-5-2. Si le mentor transalpin parvient à surfer sur la vague victorieuse qu'il a portée à Lugano ce printemps, les espoirs les plus fous sont permis pour le club sédunois. Et le titre de champion de Suisse fait aussi rêver les Young Boys, sevrés de trophées depuis 30 ans. La formation bernoise devra tout de même digérer les départs de ses pépites suisses, Denis Zakaria et Yvon Mvogo. La capacité du club de la capitale à rivaliser avec le FC Bâle sera certainement liée aux performances de son nouveau gardien, David von Balmos. À 22 ans, aura-t-il les épaules assez solides pour supporter la pression ? Rien n'est moins sûr.
Voilà pour le trio qui devrait occuper le haut du classement. Mais qu'en est-il du reste des équipes de cette Super League, Mathieu Schaffner ?
On risque bien d'avoir une lutte acharnée à 6 pour éviter la relégation. Lausanne, Thun, grâce au père Lugano, Saint-Gall et Lucerne semblent partir sur un pied d'égalité, alors que le néo-promu Zurich possède un effectif suffisamment talentueux pour s'éviter tout danger. Le Lausanne Sport a d'ailleurs opéré un changement stratégique cet été. Il a axé son recrutement sur des joueurs d'expérience, une expérience qui a cruellement manqué la saison dernière lorsque le navire vaudois ne parvenait plus à gagner. Et avec les qualités de Fabio Celestini sur le banc de la Pontaise, le LS semble avoir les armes suffisantes pour assurer sa place dans l'élite du football suisse.
Sur la route du Tour, avec le garage Lanthemann de Cortaillot et Saint-Blaise, votre concessionnaire Skoda, véhicule officiel du Tour.
Le Tour de France s'offre son plat de résistance. Le peloton va pédaler sur 180 km aujourd'hui entre Briançon et Izoard. Cette 18e étape est la dernière avec une arrivée au sommet. Les concurrents du maillot jaune, Chris Froome, doivent en profiter pour jouer leur va-tout. Et il ne restera ensuite qu'une étape de transition et le contre-la-montre à Marseille pour tenter de faire bouger l'ordre du classement général. Sur la route du Tour, la présentation de cette 18e étape est signée Fred Adam.
Dernier sommet sur la route du Tour avec aujourd'hui l'étape que tout le monde attend depuis le départ de l'épreuve. Tant ce col d'Izoard tout là-haut, décor unique, amas de pierres et de roches, est entré dans la légende du Tour au fil des passages de la course sur ces terres arides. Barthali, Coppi, Bobet, Bahamontès ou Merckx sont tous passés en tête là-haut à 2360 mètres d'altitude au cœur du parc naturel du Queyras. Mais le vainqueur de ce soir sera bel et bien le premier à y remporter une étape du Tour puisque la course ne s'y est jamais arrêtée. Trop occupé à basculer vers Briançon ou vers les gorges du Guil en route vers le sud. Avant d'escalader l'Izoard, les 169 rescapés du Tour devront longer le lac de Serre-Ponçon après un départ de Briançon. Puis ils entameront un demi-tour vers les Alpes de Haute-Provence, direction Josiers et Saint-Paul-sur-Ubaye, début du col de Vars, l'autre grand col du jour classé en première catégorie. 14 km à plus de 7% de déclivité comme juge de paix du Tour, peut-être à l'avant-veille du contre-la-montre de Marseille. 4 coureurs en moins d'une minute en tête du classement général et le maillot jaune solidement accroché aux épaules de Christopher Froome, apparemment imbattable, à moins d'un improbable coup de moins bien.
Vous écoutez RTN, il est 12h30. Dans quelques minutes, on ouvre notre carnet rose. Un temps ensoleillé, il faut en profiter car au fil des heures, eh bien, ce sont les nuages qui vont à nouveau s'emparer du ciel et pourraient donner des averses ou orages en fin de journée, début de soirée, surtout sur les reliefs. Les températures, elles sont moins chaudes qu'hier, 22 degrés dans les montagnes châteloises et au Val-de-Rue, 25 pour le Val-de-Travers, 27 sur le littoral et 28 dans la Broye et le Nord vaudois. C'est un temps instable qui va nous accompagner demain. Il sera changeant et lourd avec encore toujours ce risque d'averse ou d'orage, surtout sur le Jura en seconde partie de journée. Quant au mercure, il va osciller entre 23 et 27 degrés. Et puis le week-end est bien ensoleillé et chaud, toujours instable, toujours avec ces averses ou orages qui sont probables en fin de journée, début de soirée. Et le thermomètre, lui, affichera entre 23 et 28 degrés.